15h04 à Boulevard 102.1. Vous êtes de plus en plus nombreux à être des nôtres. Merci d'avoir fait en sorte que Gravel dans le retour soit le retour numéro 2 à Québec. Depuis maintenant 4 minutes, là, fait que là, jusqu'à 18h, faut être bon, là, pas le choix. Tout ce qu'on a de mauvais, on le passe entre 2h et 3h, parce qu'on est numéro 3, mais tu sais, à partir de 3h, c'est la crème de la crème, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On est sur le podium pour y rester. Dans la circulation, Audrey.
On nous mentionne un incident dans la bretelle Laurentienne Sud pour Capitale-Ouest. Ça ralentit pas mal dans le coin, là, donc sachez-le. Sinon, ben, ça s'installe plus tôt, c'est sûr, c'est vendredi. Capitale-Est, à la hauteur de Robert Bourassa, c'est un classique. Ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne. Henri IV Sud, hauteur Charest. L'entrée des ponts, ça commence à être difficile aussi. Et la 20 direction Ouest, c'est principalement dans le coin de Chemin des Îles. Surveillez Guillaume Couture aussi dans les deux directions sur plusieurs tronçons. Là, à plusieurs endroits, il y a des ralentissements dû aux travaux. Ça fait pas mal le tour pour l'instant. Si vous voyez autre chose, 418-971-1021, texto.
Oh, qu'on a de la belle visite.
Tous les vendredis, dans Gravel dans le retour, ça jase, puis ça goûte de la bière. On vous présente les suggestions chalot de la semaine. Cheers, la gang. Bon week-end. So what you want? I want bourbon.
On salue les trois chaloux de la grande région de Québec, Sainte-Catherine, La Jacques-Cartier, Beauport et Saint-Émile. Pendant plusieurs années, elle a été la porte-parole et la chroniqueuse des chaloux. Et elle revient, mais cette fois-là...
Sous forme de souche.
Elle revient sous forme de souche. Émilie, comment ça va?
Elle renaît de ses cendres.
Ben oui!
Félix! Et ça va très, très bien, très bien.
On est content que tu reviennes nous voir aujourd'hui.
Tout le temps du plaisir.
Là, ça fait combien de temps que tu es à la souche?
Ça fait plus qu'un an. En février, j'ai célébré mon premier anniversaire à la souche. Fait que presque un an et demi bientôt.
T'as encore du fun?
Mais en.
Génial. Ouais. Je disais aux auditeurs à quel point que mon histoire d'amour avec la souche date de nombreuses années. D'avant la naissance de mes deux petits gars, même les premières fois que je suis allé traîner sur l'heure du midi à la souche Limoilou, il y a des grandes décisions.
Ouais. Pardon. L'émotion.
Mais oui, ça rend encore émotif.
La proximité, puis tout ça, ça vient le chercher, t'as vu, là? Tu peux pas feindre une émotion comme celle-là.
C'est ça qui arrive. On dirait que je vais faire un Carl Emmanuel Picard, mais c'est pas les sanglots, je me suis réellement étouffé.
Ça comme tu de l'eau quelque chose? Le bon trou, hein,
donne-moi trois secondes, je vais
Mais oui, il y a de grandes décisions que, entre autres, Denis et moi, professionnellement, on a pris du côté de la souche. Fait que non, c'est une belle longue histoire d'amour.
Mm-hmm. Tout est beau.
Excellent.
Je suis de retour.
Fait que ça veut dire que vous êtes des vrais de vrais quand même. Limoilou, ça remonte à 2012.
Ouais.
Fait que il y en a eu du chemin là. Ouais. Un entre vous deux depuis ça, bien entendu.
Hey, je me souviens des employés de la souche qui me disaient ouais, on va ouvrir quelque chose à Stoneham, puis ça va être gros. Puis je me disais hey, ils se lancent dans la grande entreprise, de voir ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est extraordinaire. Puis de voir que vous avez créé aussi votre propre symbiose. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec, mettons, les producteurs du coin, puis ainsi de suite. Mais là, vous êtes rendu générateur d'un paquet d'affaires à Stoneham.
On essaye. Bien, puis on fait pousser un peu de tout sur nos propres terrains aussi. Du houblon qu'on utilise un petit peu parfois, mais on n'est pas notre propre producteur de houblon. Là, ça prendrait bien trop des grosses quantités pour ça. Mais notre jardin, on a nos poules aussi.
Oui.
Que
vous mettez dans les bières.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est...
Un petit peu de ça. Oui. Ben oui, fait que tu sais, tu rentres au bureau, tu as une douzaine d'œufs frais le matin, c'est-tu pas beau?
Ah, c'est toujours le fun, ça. Vous avez l'érablière aussi,
t'as raison. Donc, on s'amuse, les deux propriétaires, Antoine puis Olivier, s'amusent comme des petits fous là-dedans. Ils font les choses qu'ils ont envie de faire. Ils ont eu une grande inspiration pour ceux et celles qui voyagent un peu aux États-Unis une fois de temps en temps chez Allagash.
Mm-hmm,
ça a été quand même une belle grande inspiration pour eux, cette microbrasserie-là. Là. Fait qu'on le ressent, tu sais, le désir de bien faire les choses, d'être proche de la nature, d'y aller dans quelque chose de quand même classique aussi, de respectueux de l'environnement dans lequel tu es, c'est important pour eux. Là.
C'est quoi le défi d'une microbrasserie qui est rendue grosse comme la souche? C'est-tu de continuer de générer des nouveaux produits à toutes les années? C'est-tu de réussir à envoyer le consommateur vers des produits qui sont vraiment les marques de commerce?
Les classiques.
C'est-tu d'essayer de même sortir de la microbrasserie? Il y en a plusieurs qui l'ont fait avec des nouveaux produits, puis ainsi de suite, pour essayer de se coller aux habitants. d'habitude. C'est quoi le gros défi de la souche présentement?
Je pense que c'est un peu tout ce que tu t'amènes, dans le sens où il faut que tu sois à l'affût de ce qui s'en vient. Tu veux pas te dénaturer en même temps, c'est important. Tu veux que le client qui est fidèle depuis le jour 1 continue de te suivre, mais il faut que tu respectes les tendances. Les bières un petit peu plus faibles en alcool, tu l'as dit, tu sais, d'y aller vers des fois quelque chose qui est un petit peu moins sur une bière traditionnelle aussi, mais tu sais, les brasseurs trouvent leur compte quand même à brasser de ce type de bière-là.
Hey,
le consommateur suit aussi, tu sais.
Mm-hmm. Quand, mettons, tu rencontres vous rencontrez un de vos brasseurs, puis il faudrait qu'on fasse une nano, c'est quoi la première réaction? C'est-tu « Ah, oh, wow, le beau défi » ou « Ah, oh, j'aimerais mieux brasser une IPA ou une smoothie » ou
Ça dépend. Ça dépend d'un individu à l'autre. Les plus crinqués vont dire « Moi, amène-moi ce que tu veux, ça va être un défi pour moi, puis on y va. » Il y en a d'autres qui ont des trucs traditionnels qui aiment brasser aussi, mais c'est toujours un petit peu ça le défi, là. Tu sais, les plus grands, ben je dis le plus grand défi, peut-être pas, mais tu sais, il y a quand même tout le volet où il faut avoir des rencontres, de planification, de faire, OK, qu'est-ce qu'on pense qui va sortir, même si on voulait sortir une triple belge à toutes les deux mois, mm-hmm. je suis pas sûre que ce serait le bon choix, mettons.
Faut que t'anticipes le marché un peu.
Exactement.
C'est rendu combien d'employés, la souche, au total tout?
Autour d'une centaine.
Hey, c'est hot, hein?
T'sais, j'inclus les pubs là-dedans, évidemment. Oui. Pas juste la brasse, mais les deux pubs, Limoinou, Stoneham, c'est sûr que ça draine beaucoup de gens aussi. Là,
la tendance en ce moment, c'est-tu encore vraiment au faible en alcool, sans alcool et compagnie? Oui.
Ça grimpe énormément. On est encore là? Ça grimpe encore. Puis pas juste le sans alcool nécessairement, mais le faible en alcool. La génération plus jeune, donc Gen Z, puis ceux qui vont suivre, eux autres, ils ont quand même un bon grand souci d'avoir un équilibre de vie, mm-hmm. tu sais, de bien consommer. Par contre, quand ils se chug, par exemple.
C'est tout l'un, tout l'autre.
Des fois, il y a ça. Mais il y a quand même, en général, le souci de voir, OK, qu'est-ce que j'ai dans mon verre. Ils vont sortir dans les bars sans nécessairement consommer, chose qu'on s'entend, nous quatre, autour de la table, on faisait pas.
Oui, mais on n'avait pas l'option. C'est drôle. On en a parlé avec Raph Nadeau, notre mixologue, le heureux mélange. Tout ce qu'il y avait de sans alcool dans le temps, c'était du bar mix, là.
Ah ouais,
c'était dégueulasse.
Le Shirley Temple
avec la petite grenadine dans le fond.
Oui, c'est ça.
Tu parlais de l'inspiration des créateurs de la souche vis-à-vis Allagash,
oui.
qui est vraiment une microbrasserie extraordinaire aux États-Unis. Si jamais vous faites le détour vers
c'est Portland,
effectivement. Une de leurs bières les plus connues et reconnues, c'est la Blanche. Il y a Isabelle qui demande, est-ce que vous avez une bière équivalente à la Blanche d'Allagash? Dans les produits de la souche.
C'est sûr que les chaussures sont grosses à chausser, ouais. là, quand même. Mais oui, ben justement, regarde, on peut partir si vous voulez plonger dans vos verres. On dirait qu'Isabelle est avec nous. C'est la première bière que je vais vous proposer. C'est notre Blanche.
Pour vrai,
Oui, absolument. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à la côte, celle d'Allagash? Je pense que c'est complètement différent. Aujourd'hui, je vous ai apporté quatre de nos bières, quatre bières classiques qu'on a à l'année.
Okay.
Dans lesquels on a travaillé avec des aromates un petit peu plus boréales, un petit peu plus québécois.
Ça sent assez bonne.
Oh, que ça sent bon.
Ouais. Blanche, c'est la Stadacona. C'est une bière qu'on brasse depuis des années et des années. On a ajouté du thé du Labrador dedans. C'est ça notre petite signature dans la blanche qu'on fait.
J'aime beaucoup ça. Ça la distingue.
Les blanches, c'est vrai, je me souviens, Véro, que t'es pas une grande amatrice de bière blanche, de bière belge en général.
Mais j'aime beaucoup le thé du Labrador. Okay. J'aime la saveur du thé du Labrador. Fait que là, je pense que c'est peut-être ça qui vient me chercher.
Possible. Donc, Stadacona, c'est ça. Puis ce qui est le fun dans cette bière-là, trois des bières sur quatre que je vous apporte aujourd'hui sont faites avec 100% d'ingrédients québécois.
Ah, c'est génial.
Ça, c'est une de nos grandes fiertés. On a ajouté un silo à grains sur le côté de notre bâtiment dans les derniers mois pour ajouter de plus en plus d'ingrédients 100% québécois dans nos bières. On transforme tranquillement nos recettes. On y va à petite dose parce qu'on ne veut pas dénaturer ce qu'on fait.
Oui.
Il faut que le consommateur qui boit une gros pain aujourd'hui, il veut que demain,
soit capable de la reconnaître.
C'est important, c'est important.
Est-ce que les producteurs, justement, des produits que vous utilisez, vous voyez une croissance aussi, un développement qui paraît de ce côté-là? Parce que j'imagine que ça n'a pas toujours été facile pour les brasseurs de s'approvisionner au Québec.
Mais parce que tu veux aussi que... Le plus grand défi, je pense, là-dedans, c'est des New England IPA. Parce qu'on était habitué de boire des New England IPA, évidemment, traditionnellement, ça a pris naissance aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, avec des houblons traditionnels américains, c'est dur de reproduire ça pour différentes raisons. Évidemment, le houblon qui pousse ici, il est pas, la nature est clairement pas la même que là-bas.
Comme nos fraises sont meilleures que les fraises d'ailleurs. Là, c'est
absolument, nos pommes, peu importe, là, peu importe ce qu'on mange, ce qu'on boit. Donc, fait qu'il y a toujours ce souci-là, mais il y a beaucoup eu de recherche et développement pour les producteurs de houblon, les houblonnières, les malteries aussi. Ils travaillent extrêmement fort pour améliorer le process sur la matière première, puis d'arriver aussi avec un produit qui va être satisfaisant, parce que c'est ça que tu veux. Tu veux pas travailler ta bière avec du 100% Québec au détriment de la qualité de ton produit, du goût, puis de l'engouement qu'il peut avoir pour le produit.
Avant de déguster le deuxième produit proposé par Émilie de la microbrasserie La Souche, Audrey, on retourne sur les routes.
Oui, sortie de route sur la 20 Est à la hauteur du kilomètre 303. C'est la voie de droite qui est bloquée. Les services d'urgence viennent tout juste d'arriver sur place.
Très heureux de ta deuxième sélection. C'est une de mes bières d'été préférées, particulièrement cette édition-là, parce que je sais que vous en avez quelques-unes.
Oui, on parle de la Gauze Vissale actuellement. La première gauze vissale qu'on a sortie, c'était la classique. On est sur une gauze. Qu'est-ce que c'est une gauze, pour le rappeler? Bière acidulée avec des notes salines aussi. Mais là, c'est l'édition laurentienne. Mm-hmm. Donc là, on a rajouté un peu de thé du Labrador dedans, des pousses d'épinette, puis sapin baumier aussi, si je ne me trompe pas.
Satisfaisante, cette
rafraîchissante.
Oui, oui, oui.
Vraiment, c'est frais, c'est citronné. Puis je trouve que le dosage du sapinage dedans est intéressant, parce que ça amène juste un kick à un autre niveau d'une gauze classique.
C'est ça, c'est comme si le côté quasiment limonade ressort encore plus. Mais tu sais, pas limonade sucrée, là, limonade citron, une vraie citronade. Mm-hmm. Là. J'adore ce que ça donne.
On a l'impression un peu quasiment d'être sur une limonade avec du romarin un peu. Oui. Oui. Juste des herbes, en fait, à l'intérieur. Donc ça, c'est un produit, à un moment donné, qu'on a décidé, parfait, il y avait une belle vélocité dessus. On va commencer à le brasser à l'année, même en hiver. Au départ, des gauzes, on envoyait juste l'été.
C'est vrai.
Quand le printemps arrivait, la chaleur arrivait, les gauzes prenaient la place sur le marché. Mais non, des gens boivent des gauzes à l'année maintenant.
Le petit côté conifère, ça fait que ça se boit à l'année, je trouve.
Oui, effectivement.
C'est de rajouter une saveur unique dans un produit qui est bien connu, puis de faire briller justement ce qu'on a au Québec. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs exemples sur le marché actuellement. J'aime beaucoup les gauzes. Celle-là a vraiment un petit goût qui la distingue complètement.
Un petit kick de plus. Encore là, on est 100% Québec, fait qu'on est extrêmement fiers de ça.
Puis on vous le rappelle, c'est des bières qui sont disponibles à l'année. Suggestion numéro 3.
Ça, je vous l'ai, à mon avis, fait découvrir il y a à peu près un an de ça. Ça, c'est une étoile montante, là. Nos équipes de vente, les reps que je salue, attendaient ce produit-là avec impatience. Elle a vite gagné sa place dans nos bières régulières. Là, on se disait, est-ce que cet hiver, elle va bien se comporter dans les ventes? Ça n'a pas rapport.
Ouais. Moi, c'est la première fois que je goûte ça.
C'est vrai. Peut-être que je suis venue puis j'étais juste avec Audrey.
Ça se peut, parce que moi, elle est familière.
Oh mon Dieu, que c'est bon.
L'île Monade. Délicieux. Pour ceux qui la connaissent.
Ah, c'est elle, ça. Okay.
Radler, on est avec du citron, de la framboise, puis on a travaillé encore là avec un petit peu de sapin à l'intérieur, mais délicat.
Ça, là, pour ceux que j'entends dire des fois, moi, la bière, là, c'est vraiment une entrée dans l'univers de la bière de microbrasserie. Si vous aimez tout ce qui est fruité, acidulé, évidemment, mais je veux dire, ça se boit sur le bord de la piscine, ça, là.
Des Radler méchants au fil des années, on en a bu.
Ah, genre beaucoup trop sucré, trop à l'excès.
C'est vrai, là. C'est un produit extraordinaire. C'est quoi un Radler?
Radler, on va être sur une base de bière traditionnelle allemande. Il paraît que dans l'histoire, il est arrivé un moment où, dans une petite brasserie, il y a une gang de cyclistes qui ont envahi un pub en Allemagne. Puis là, à un moment donné, ils se sont mis à boire de la bière. Puis là, la tenancière, elle s'est dit, là, à un moment donné, je vais manquer de bière. Fait qu'elle s'est mise à faire des mix de limonade citronnée avec de la bière blonde, très légère. Fait qu'un Radler, c'est un peu ça. C'est une espèce d'assemblage. C'est à peu près la seule règle que les Allemands dépassent, parce qu'ils sont très puristes dans leur bière, dans ce qu'ils font habituellement. Oui, mais oui, c'est la seule entorse qu'ils font dans leur tradition.
Au nez, elle a quelque chose de floral. Je ne sais pas si c'est le mélange de framboise puis de sapinage qui amène ça, mais c'est désaltérant comme j'ai rarement goûté dans une bière.
Au goût, la framboise me rend heureux. Ben là, ça me prend presque toute la place.
On a des textos qui nous disent que c'est la préférée, celle-là.
Ah ouais, je vous dis, ça a été vraiment un hyper beau succès. Assez que là, on en a sorti une nouvelle dans les dernières semaines, une Radler, l'île Monade aussi, mais uniquement citron.
OK.
Ça va déjà extrêmement bien, on est super contents.
Ben crème, pour prendre des bières comme la Gauze puis la Radler, qui sont souvent considérées comme des bières d'été, puis décider de les faire à l'année, ça veut dire que...
Il y a une demande,
Il y a un bel engouement.
Oui, on a réussi à créer quelque chose.
La beauté de ce produit-là, les Radler, on est à 2,5% d'alcool. Fait que hyper goûteux.
Ça?
Oui.
C'est à 2,5?
Oui, exact.
Je vais en boire à tous les jours.
À tous les jours. Et même au déjeuner, si on veut.
Oui. Et suggestion de produit numéro 4?
Ça, c'est ma petite préférée. Dans les IPA et New England IPA qu'on fait, c'est vraiment ma favorite. Encore là, on est sur du 100% québécois.
Ça sent la gomme de sapin.
Oui. Donc, on est vraiment New England IPA classique. Par contre, encore là, on a travaillé avec des aromates boréaux. Dans celle-là, on est sur l'épinette et le myrique baumier.
C'est ce qui goûte tout de suite en partant.
Au nez, tu l'as aussi. Mais ça amène complètement quelque chose de distinctif.
Mais c'est spécial parce que t'as zéro amertume là-dedans. T'as zéro... Je veux dire, ça se boit. Mettons, c'est moi, t'as dit IPA, puis non, oui, mais c'est ça. Donc, t'as dit IPA, puis je me suis dit, ben non. Mais, mais elle se boit toute seule, elle rentre vraiment bien.
Puis le côté boréal de la chose vient apporter une autre twist complètement au New England IPA qu'on voit sur le marché. T'en as une, puis une autre. Mais là, on est sur vraiment quelque chose de distinctif grâce à l'épinette.
C'est la Loup des Saules?
Acadia.
C'est l'Acadia,
Acadia, oui. Donc, ça fait déjà, je dirais, quand même peut-être un 3-4 ans que cette bière-là est sortie à peu près. La première fois, elle est sortie au pub à Limoilou. Ça, c'est souvent la manière qu'on fait pour voir si un brassin va avoir du succès. Premier brassin qui se passe à Limoilou, on le teste en fût sur place. La réponse est bonne. Oups, tout à coup, on est obligé d'en faire une deuxième batch très rapidement parce que ça sort très vite.
Vous brassez encore sur place à Limoilou?
Oui, okay, dans le petit sous-sol. Oui. Okay. Limoilou, on est encore sur des brassins expérimentaux. Mm-hmm. À peu près en tout temps, là, il y a tout le temps des nouveaux brassins expérimentaux. La carte de bière, vous ne la retrouverez pas à Stoneham.
Non.
Fait que Limoilou a vraiment sa propre signature encore. Fait que l'histoire de l'Acadia, c'est un peu ça. Il y a tellement eu de succès à Limoilou qu'à un moment donné, on s'est dit « OK, go, on va dans les grosses cuves à Stoneham, on brasse ça, on met ça, on fait faire une étiquette, évidemment, puis on part avec ça. »
Hey, tu me fais réaliser que celle-là, je ne l'avais probablement jamais goûtée depuis que vous l'encanettez.
C'est okay,
oui,
bon,
c'est très, 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 très bon.
Fait que 6 % d'alcool, assez classique pour une New England IPA, mais tout le côté boréal qui amène une distinction vraiment trippante.
Des produits disponibles à l'année. Je sais que dans les Chaloux, il y a énormément des produits de la souche à l'année longue, mais vous avez aussi vos boutiques qui sont disponibles. Celle-là à Stoneham, puis il y a aussi un frigidaire qui est disponible du côté de la souche Limoilou pour les gens qui veulent prendre un petit quelque chose en partant.
Exact.
Hey, tout ce qui arrive dans la guerre tarifaire puis ainsi de suite, ça a-tu causé des problèmes pour les canettes puis pour vous autres, entre autres?
Honnêtement, pour l'instant, on a été épargnés.
OK.
Pour différentes raisons, parce qu'on est quand même souvent en planification assez à l'avance pour ça.
OK.
Fait que ça fait... On a quand même réussi à absorber tout ça un peu puis de réussir à contourner un peu les choses par rapport à ça.
Ah, ben tant mieux.
Puis on n'était pas menottés avec des fournisseurs aussi 100% là, qui nous bloquaient dans tout ça. Donc, on s'en est vraiment très bien sortis de ce côté-là, honnêtement.
Avez-vous un gros été à la souche? Faites-vous le tour des festivals? Est-ce que vous réorganisez l'événement?
Inexploré,
on avait passé l'après-midi ensemble. Ouais. Tu nous avais fait faire la visite des lieux. Il y avait plein de brasseurs sur place. C'est
exact.
Quand, ça?
Inexploré, on va être sur la fin août. Donc, 28-29 août prochain. Les billets sont déjà en vente. Donc, c'est vraiment sur un petit festival traditionnel avec la seule différence, c'est que là, on a mis tout le monde sous le même bord. Au lieu que chacun ait son kiosque, c'est quasiment un petit événement pour les brasseurs, pour les brasseries aussi de Québec de se retrouver. Donc, 9 microbrasseries sur place, entre autres Griendel, Barberie vont être là, Nano Cinco, Emporium, nous, évidemment, c'est nous qui recevons, donc on va être là, bien sûr. Puis, un peu sur la thématique d'aujourd'hui, les brasseries là-bas avaient la mission de brasser des bières pour l'événement avec des aromates ou des produits venant du Québec.
Okay.
Pas nécessairement à 100%, mais au moins travailler le cassis. J'ai parlé justement à Valérie de la Barberie ce matin. Elle a dit on va faire la pourpre profond, Deep Purple, donc 100% Île d'Orléans avec son cassis. Griendel aussi, une petite nano IPA qui ont travaillé avec du houblon aussi qui vient du Québec. Fait que ça, c'est la petite mission pour les brasseries. Les billets sont en vente dès maintenant.
On ramasse ça où?
En ligne, évidemment. Vous pouvez aller sur notre site.
OK.
Vous allez avoir le lien pour faire l'achat des billets. Donc, 40 $, 10 dégustations. C'est l'édition 2. On a des petits ajouts encore cette année sur le site pour l'événement.
Puis pour le reste de l'été, vous promenez-vous pas mal?
Oui. Ouais. Festival en fin de semaine, d'ailleurs.
Ça commence.
oui, ça commence. Il y avait déjà Sherbrooke. Sherbrooke Festibière est déjà derrière nous. Ça va vite. Ça va tellement vite. Mais oui, dans à peu près toutes les régions du Québec cet été, vous allez avoir retrouvé la souche dans les festivals. Je pense au Saguenay, Bas-Saint-Laurent aussi. On va être là. On se promène, bien sûr.
Émilie, t'es chez vous ici. C'est toujours un plaisir de te retrouver.
Merci.
Puis, il y a d'autres nouveaux produits qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois. On aura l'opportunité d'en reparler, assurément.
Si.
Tu reviens quand tu veux, hein?
Oh, ben, oui. Parfait, je suis prête.
T'as-tu écouté nos chroniques? Tu nous trouves-tu pas pire quand on les fait?
Je vous trouve pas pire, oui. Ouais, je l'avais écrit en plus. J'avais pris le temps de vous l'écrire, il y a quelques mois.
On a eu,
vous êtes pas pire.
On a eu les bons profs.
Ah, oui, excellent. Puis je pense que vous n'avez bu en masse aussi à un moment donné. Le palais se développe aussi, puis on vient à... Puis j'ai l'impression que le fait que peut-être qu'il n'y ait plus personne en onde avec vous, ça vous amène à avoir plus confiance. Peut-être des fois, tu fais « Ah, là, j'ai plus personne pour m'accompagner. »
On se trompe un peu plus.
Ouais, ben parfait, c'est
génial. Les filles m'impressionnent. Là.
Oui?
Juste à reconnaître des affaires au nez puis au goût sont pas mal meilleures que moi. Moi, je suis encore à deux catégories. Les bières que j'aime, les bières que j'aime moins. C'est ça.
Ah ouais, c'est vrai que le « j'aime pas » n'existe pas. Hein?
Non. Dans la bière, c'est très, très rare.
Les bières que j'en prendrais une puis celles que j'en prendrais au moins deux.
T'as bien compris. Il est 15h25. Merci, Émilie. Donc, vous allez retrouver les suggestions sur l'Instagram de Boulevard 102.1.
C'est déjà là.
Génial. Et également sur le Facebook des trois chaloux de la grande région de Québec, Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier, Beauport et Saint-Émile. Courte pause, on revient. C'est Gravel dans le retour à Boulevard.
Pour tous vos besoins, Breuvage vous procure...
Il est 15h31. Bon vendredi, bon début de week-end. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Tantôt, on va revenir dans l'actualité. Je vous rappelle qu'aux environs de 17h, on va se brancher avec notre ami Richard Martineau. Hey, un gros merci à Émilie de la microbrasserie La Souche.
J'ai ma nouvelle bière préférée, puis elle est à 2,5% d'alcool.
C'est la Radler, hein? La Lille Monade. Ouais,
je suis brisé.
Bien des auditeurs et des auditrices qui la connaissent et qui l'adorent déjà. Pour nous, rejoindre le 88-971-1021 par texto, par téléphone, le 780-1021 par téléphone. Il y a quand même des incidents majeurs sur les routes dans la circulation. Audrey.
Si vous êtes sur la 20 direction est à la hauteur du kilomètre 303, la voie de droite qui est bloquée, c'est une sortie de route. Les services d'urgence qui sont sur place au moment où on se parle. Évidemment, c'est vendredi, donc depuis 14h, il y a déjà des gros ralentissements à prévoir un peu partout. Entre autres, sur la capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, Ouest, entre Henri Bourassa et Laurentienne, l'entrée des ponts, ça commence à être difficile. Henri IV Sud, à partir de Versant Nord jusqu'au pont La Porte, entre autres, c'est pas mal congestionné. Et la 20, direction Ouest, c'est hauteur Chemin des Îles, dans les deux directions, hauteur Taniata. Autre chose, 88-971-102, texto.
Toujours le fun de se renseigner sur l'histoire de notre belle ville et depuis quelques semaines, on a le plaisir de jaser une fois de temps en temps les vendredis avec Micha Horswill, qui est géophysicienne et passionnée d'histoire de la ville de Québec, que vous pouvez suivre sur Instagram, entre autres. Micha, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Là, je suis content parce qu'aujourd'hui, tu vas m'apprendre de quoi solide. Ces temps-ci, moi, j'ai deux petits gars. J'ai un grand qui trippe sur le hockey et le plus jeune, il est passionné d'histoire. Puis on essaye de pogner toutes les capsules historiques qu'on est capable de ramasser sur Télé-Québec, YouTube
ils font
et
du
ailleurs.
Bon stock, hein?
Ouais, ben ouais. C'est quoi? C'est Québec, le nom de la série, je
c'est
pense.
C'est avec un
K,
là?
K-E-B-E-C. Ouais. Comment, Arthur?
K-E-B-E-C.
Ben, exact. Arthur est en studio avec nous autres aujourd'hui. Quand j'ai dit à Arthur que tu allais venir nous raconter quelque chose aujourd'hui, il était bien, bien excité. C'est pour ça qu'il a mis ses écouteurs puis qu'il est bien attentif. On parle beaucoup d'itinérance par les temps qui courent à Québec. On parle de gens qui ont beaucoup de difficultés à arriver, à joindre les deux bouts. C'est pas la première fois de l'histoire de Québec qu'on assiste à ce genre de situation économique difficile-là. Et à une certaine époque, c'est ces plaines que les gens s'étaient installés carrément dans ce qu'on pourrait appeler un bidonville.
Oui, exact. La mémoire est une faculté qui oublie, hein, puis à chaque fois qu'on vit quelque chose de catastrophique dans la société, on pense que c'est nouveau. Et
c'est
non,
la première fois.
Souvent,
hein?
Ça se répète et même cette crise de l'itinérance-là était pire que celle, ben, sans minimiser ce qu'on vit aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a des gens qui vivent la grande détresse, mais c'était encore pire. Et ça s'est passé sur les plaines d'Abraham. Je pense là, qu'à chaque fois que je viens ici, je pourrais parler des plaines d'Abraham. Tellement
mais c'est passé de choses!
C'est passé de choses!
Il n'y a pas juste une bataille puis des festivals, non?
Non, il y a eu deux coupes cette année, puis j'aurais tellement ça voulu vous en, j'aurais voulu vous en
oui.
parler aujourd'hui, parce que c'est comme le moment
que la coupe
pour
soit
parler.
Gagnée, puis on va être correct.
Mais, ouais, c'est
les,
ça.
Les Bulldogs de Québec jouaient sur les plaines.
Et oui, et ils avaient gagné deux fois, là, mais là, il aurait fallu que je fasse des recherches. J'avais pas le temps, fait que Faubourg de la Misère. En fait, plein de noms, là. Il y a des gens qui font référence à ça. Le nom officiel, c'était Cove Fields.
Okay.
Ensuite, il y a eu Faubourg de la Misère, Punaiseville, c'est toute la même chose.
Là, on est à quelle époque, précisément?
On est tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a commencé en 1945. Puis on se situe à peu près sur les... Ben, pas à peu près, on se situe carrément là où il y a toutes les shows. Sur
ah
les
ouais.
plaines d'Abraham, le Festival d'été, la Saint-Jean-Baptiste.
L'espèce d'amphithéâtre naturel, là, dans le creux, là?
Oui. Puis, en fait, c'est ça, ça, jusqu'en haut de la butte, je vais y revenir plus tard. Mais donc, pourquoi est-ce qu'ils se sont installés là? C'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, effort de guerre du Canada, on a dit qu'on allait recevoir les prisonniers de guerre nazis. Donc, là, on est à côté de la citadelle, en arrière du manège militaire. Ça appartient à l'armée, ce secteur-là.
Ouais.
Donc, ils construisent des baraquements militaires pendant quelques années, de 40 à 45. Non, même pas, juste en 40. On reçoit là, non seulement des prisonniers de guerre nazis, mais aussi des réfugiés juifs
dans
la même bâtisse.
Mais voyons.
Moi, ça me fait capoter.
Les deux à même place, mais pas
deux,
ensemble. Là, ils sont séparés.
Ben là, je pense pas qu'ils étaient dans la même pièce.
On voulait être sûr qu'elle partait pas, hein?
Je comprends pas comment c'est arrivé. En tout cas, faudrait fouiller ça un peu plus, là. Puis cette info-là, je l'ai reçue du musée des Plaines d'Abraham.
Et là, ces baraques-là, c'est vraiment sur le site des Plaines où on a le festival d'été.
Exactement. Prochaine fois que vous regardez Muse, mettons, cet été, là, pense, il y avait des prisonniers de guerre nazis là.
Wow.
Exactement. Ça n'a pas fait long feu parce qu'il y avait des graves enjeux de sécurité.
J'imagine.
On est en plein centre-ville de Québec.
Oui.
Imaginez-vous donc, moi, si j'apprends qu'il y a cela, je vais aller voir.
Ben
qu'il y avait des attroupements de curieux qui allaient voir. Apparemment que le long de la clôture, il y a des petits messages qui se partageaient. Il y avait des espions allemands à l'époque au Québec. Et puis, il y a même une histoire qui dit qu'il y a un prisonnier qui a réussi à s'échapper juste 24 heures. Il est revenu après. Il voulait aller faire un petit pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré.
C'est bien drôle, ça.
Fait comme quoi, la sécurité, c'était pas trop tenu serré. L'armée, en fait, ça n'a pas de bon sens d'avoir ça en plein centre-ville. Donc, ils sont partis. Les baraques sont restées inhabitées, ben, comme abandonnées pendant un bout de temps.
OK. Les gens sont partis, les baraques sont restées.
Les baraques sont restées. Puis, pendant ce temps-là, ben, tout un tas de conditions, en lien notamment avec la guerre, mais bon, le parc immobilier a arrêté d'être construit, a arrêté d'être entretenu, la population de la ville grossissait, donc crise du logement, exactement comme aujourd'hui, ce
ben
qui
oui.
a mené à une crise de l'itinérance, mais à une ampleur telle que les gens, il y avait des campements illégaux qui se construisaient un peu partout, ben construisaient, en tout cas, qui se faisaient un
qui
peu partout,
ouais.
le long du fleuve, le long de la rivière Saint-Charles, sauf que là, tu sais, même nous, en ce moment, aujourd'hui, on est un peu frappés de voir les gens qu'on voit dans la rue des visages, qu'on n'a pas l'habitude, des femmes, des gens plus âgés. Mais à l'époque, là, les familles, c'était du 10, 12 enfants.
C'est vrai, on est dans l'effort d'après-guerre pratiquement. Là.
Ouais. Donc c'était des enfants carrément qu'on voyait dans la rue. Et le maire de l'époque, Lucien Borne, se dit « Bon, faut qu'on fasse quelque chose. On a justement ces baraques inhabitées-là. » Il demande à l'armée « Est-ce qu'on peut temporairement héberger des gens là? » À prime abord, ça semble une bonne idée. Pourquoi pas? Donc, au plus haut, là, c'est 1200 personnes qu'on retrouvait dans ces baraques-là. Mmh. Sur 1200, on dit à peu près 750 à 800 que c'était des enfants. Donc, ça fait une dynamique quand même assez bizarre. Mais là, imaginez-vous comme... C'est des baraques militaires, là. C'est pas des grosses conditions.
Il est peut-être là gratuitement, sais-tu?
Non, il fallait qu'ils payent.
En plus?
Prix modique, mais il fallait qu'ils donnent un petit montant à la ville pour être hébergés dans des conditions carrément inhumaines. Donc là, c'est ça, on voulait héberger à la base des prisonniers nazis, donc ils se sont pas forcés sur le confort. Et en plus,
c'était un toit des murs, j'imagine.
Ça a été à mon... Ouais, un toit des murs, apparemment, que quand il pleuvait, c'est comme s'il pleuvait en dedans. Les murs, en fait, c'est même pas exactement des murs. Ça faisait 2 mètres de haut, donc aucune intimité. On voyait ce qui se passait de l'autre bord. Hey. La densité de gens qu'il y avait là-dedans, c'était fou raide. Des toilettes, il y avait une toilette par baraquement qui était composée de plein de familles, puis ça n'avait pas été entretenu.
Pour combien de monde?
1200.
C'est fou, là!
Puis ça remplissait même pas l'entièreté du site des Plaines. Et moi, un fun fact, je sais pas si c'est intéressant pour la majorité des gens, mais moi, ça me fascine. Vous savez la dynamique haute ville, basse ville qu'on retrouve à Québec, où les gens plus pauvres ont tendance à se retrouver en basse ville, plus aisés en haute ville. C'est pas juste à Québec que ça marche comme ça. À peu près toutes les villes qui ont haute ville, basse ville, c'est le même phénomène. Bien, sur les Plaines, c'est exactement ça qui s'est passé avec un échantillon de 1200 personnes.
T'as un peu le haut de la butte, le bas de la butte?
C'est ça que tu parlais? Oui! Oh, ouais.
En haut de la butte, ce sont les personnes en situation d'itinérance, les mieux aisées avec les meilleures baraques qui se sont retrouvées là, puis
les
plus
pauvres
des pauvres. Oui, c'est ça. Oui, et ça, c'est documenté.
Ah, oui.
Oui, parce qu'en fait, les dernières personnes là, qui ont vécu ça, qui étaient enfants, qui ont encore ce souvenir-là, sont décédées dernièrement. Donc, il y avait un gros travail qui a été fait de comme aller chercher toute l'info avant que ce monde-là, malheureusement, décède. Okay.
Combien de temps ça a duré, cette situation-là?
Ça a duré. Ben, bon, donc. Au début, Lucien Borne, lui, c'était comme une mesure d'urgence.
Ouais.
On fait ça temporairement parce que...
Il faut trouver une solution, on n'a pas le choix.
Ça évite d'éparpiller tout le monde partout, fait que ça permet un certain contrôle-ish. Là.
Ouais. Mais 6 ans plus tard, c'était rendu du permanent.
En 51?
En 51, exactement. Puis ça aurait continué si c'était pas de l'armée un jour qui a dit « Débarrassez-nous, on jette tout à terre. »
On reprend nos affaires.
C'est à nous, partez de là. Mais sinon...
Hey, c'est long, 6 ans.
C'est très long,
c'est
6 ans.
C'est 4 saisons, là.
Puis, en fait, ce qui est intéressant dans les témoignages des enfants qu'on a eus dernièrement, là, de ceux qui avaient vécu là, eux, bien évidemment que c'est de la grosse misère, c'est des conditions humaines, mais il y avait comme un esprit de communauté qui s'était créé, puis c'était vraiment un bidonville, là, comme on peut s'imaginer, où des gens qui s'entraident entre eux, un esprit de communauté, mais les gens autour, là, à côté, c'est Grande Allée. Hein.
Ben oui.
C'est les plus riches. Le phénomène du pas dans ma cour, bonjour, à 100 000 à l'heure, c'est pas pour rien que les termes punaiseville, Faubourg de la misère est apparu, c'était pas ça le vrai nom, c'est les gens autour qui chialaient, puis qui étaient comme, mais tassez-nous ça de là.
T'es en train de dire que dans ce temps-là, on était pas prêt pour la mixité, là.
Non!
Mais ces gens-là, quand on a défait les baraques, sont partis où? Sont retournés à Limoilou en bas? Je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là qui étaient quand même plusieurs centaines?
Oui, j'ai pas la réponse exacte, mais apparemment que c'est documenté. Oui, c'est dans certains quartiers de la basse ville. Puis à cette époque-là, tranquillement pas vite, les quartiers qui n'avaient pas été entretenus pendant la guerre commençaient à être rénovés, mais il y avait encore des trucs
magané,
complètement
hein?
abandonnés.
Ouais, j'ai vu des images d'archives il n'y a pas longtemps du quartier Limoilou, justement. Je pense que c'était dans les années 40 ou début des années 50. Puis il y avait des grands secteurs qui étaient laissés à l'abandon. Puis il y avait des gens qui s'étaient fait des camps. On ne parlera pas d'abris de fortune, mais des camps probablement qui ressemblaient aux baraques qu'il y avait sur les plaines, mais tu avais énormément de misère. Puis on n'intervenait pas. Je veux dire, une maison passait au feu, elle restait là, puis les gens essayaient de rabibocher ça pour essayer de se faire un campement temporaire qui devenait permanent parce que les gens vivaient dans misère solide.
Oui, exact. Puis il y a d'autres quartiers aussi, là, Saint-Sauveur, je crois, même chose, mais c'est... fascinant, triste et fascinant de voir qu'il y a, il y a moins de 100 ans, là, ça fait pas si longtemps que ça. Nos grands-parents ont vécu ça, une ville de Québec où il y avait un niveau de misère là, vraiment élevé, très élevé.
Là, on a des images qui existent, que j'ai jamais vues, que Véro nous a trouvées sur le site
Laval.
De l'Université Laval. Okay. La vie quotidienne dans le faubourg de la misère. Je suis en train de regarder ça. Je sais pas si on peut peut-être partager le lien sur nos réseaux pour les gens qui s'intéressent. Mais mon Dieu Seigneur, ça frappe l'imaginaire. Puis on voit vraiment, je sais pas, ben Micha, t'as probablement vu ces images-là déjà, là. De voir les baraques qui sont installées carrément où on regarde des shows pendant le festival d'été, c'est particulier. Là.
Puis quand je suis allée au musée des Plaines d'Abraham pour avoir de l'info, parce qu'il n'y a pas d'expo là-dessus, hein, sur, mais bon, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'infos, fait que peut-être que ça viendra un jour, je le souhaite.
Mm-hmm.
Mais c'est vraiment comme je les ai rencontrés one-on-one, puis on m'a donné de l'info.
Wow.
Et moi, ce que je trouve très beau dans ces images-là, c'est les cordes à linge avec les vêtements. Moi, je trouve que ça a quelque chose de romantique. Je sais pas, ça fait Italie. On m'a dit non. Mais étaler ton linge comme ça
c'était
à l'extérieur,
humiliant, j'imagine,
c'est...
Hein?
Ouais, c'est humiliant, puis c'était un symbole de pauvreté. Donc, de voir que sur toutes ces images-là, on voit comme...
Des cordes à linge.
Puis tu sais, il n'y a pas vraiment de mur, là, pour ceux qui n'auront pas l'image. C'est des planches de bois, c'est des baraques faites en bois. Donc, on s'imagine bien que l'eau rentrait, puis comme le monde qui ont leur linge.
L'hiver, étalé, le fun linge. Que ça devait la être neige. L'hiver.
Incroyable. Ah, mon Dieu, c'est plein. Ils vendent tout le temps.
C'est chaud de penser qu'aujourd'hui, nous autres, c'est que du plaisir, c'est plein.
Ben, oui. Micha, merci, hein, puis continue de nous faire découvrir ces histoires-là, c'est fascinant. Micha Horswell, qui est géophysicienne, qui est passionnée d'histoire de la ville de Québec, que vous pouvez suivre sur Instagram ou à partage
Facebook,
ces capsules-là. Partout, hein, partout!
Ouais. YouTube, Pasteur.
En plus? Ouais, parle-moi de ça. 15h44, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
Gravel. Boulevard. Dans le retour.
Il a dit qu'il faut pas le laisser lousse trop longtemps, le kid.
Hey, mais ça me fait rire à quel point il tisse des liens rapidement. Hein. Il est en train de... Il y a des amis partout dans la station.
Là, il est rendu chroniqueur avec Jeff le midi.
Il fait des voix à prod.
Ouais,
je cligne. Il a réussi à soudoyer des collègues pour avoir du popcorn et du chocolat chaud dans notre dos.
Je cligne des yeux, puis il est en train de faire quelque chose. Il est en train
de d'acheter produire. À business.
Oh, oui, il est sur le bord. Faut le checker. Il est à checker, le kid. Ça va, Arthur?
Ouais. Ouais. Puis en passant, c'est Tommy qui me l'a demandé, c'est pas moi.
Ah ah! Oh, oui, je sais que t'as des complices là-dedans, là. Ouais.
Ce n'est pas de ma faute.
C'est jamais de ta faute, on sait bien, hein.
Tu veux-tu faire de la radio plus tard, Arthur?
Ouais.
Ouais?
Mais je crois.
Tu crois? Ben écoute, il faut rêver jeune, là. En tout cas, t'as de la jasette.
Ton émission va s'appeler Gravel dans le retour?
Gravel dans le retour, père-fils.
Oh, oh Dieu!
On va travailler ensemble?
Wow!
Oh là là! Tabarnouche, il va falloir que je t'offre.
Longtemps.
Tu commences jeune.
Ouais, tu vas me prendre comme un vieux chroniqueur qui radote des vieilles affaires?
Oui.
Ah, super.
Hey, je trouve ça mignon.
Tu vas juste te parler des vieilles affaires des années 90, puis tu vas... Moi, je voudrais comprendre, toi, tu peux tout comprendre.
Parce que c'est vieux, les années 90.
Ben oui, hein, c'est ça.
C'est vraiment vieux.
Extraordinaire.
Mais pour moi, c'est vieux.
Ben, c'est sûr.
T'étais pas là dans les années 90, toi.
J'étais même pas né.
Ben non, t'étais même pas né. T'as-tu aimé la chronique à Micha?
Ouais.
Ouais, hein?
C'est intéressant.
Ouais, on apprend des choses.
Beaucoup de choses.
Ouais. Hey, t'as allumé que c'était... où est-ce qu'on est allé voir le show de Fred's?
Ouais.
Au festival d'été, qu'il y avait des gens qui vivaient là, qui étaient pauvres, qui étaient maganés.
Qui étaient pas très bien dans les cellules.
Ben non. Tabarnouche. Hey, merci Arthur.
De rien.
Ouais. Retourne te prendre du popcorn.
Mon chanceux.
Comme si j'avais besoin de dire.
Je vais pas le faire.
Comment?
Je vais pas le faire.
Non. Garde-toi de la place pour le souper, là. On va regarder l'essentiel de l'actualité. Véro, de quoi on jase aujourd'hui? On est vendredi, on est le 5 juin.
Côté judiciaire, il y avait Daniel Robitaille qui revenait devant la cour aujourd'hui. C'est l'homme qui est accusé d'avoir frappé les deux garçons de 7 et 10 ans à Beauport, souvenez-vous, au début du mois de mai. Lui qui avait embouti un autre véhicule avec le sien, a bifurqué de sa route. C'était à l'heure du retour des classes, les deux garçons qui se trouvaient sur le trottoir. D'ailleurs, on a craint pour la vie d'un des deux pendant un certain temps. Et aujourd'hui, le juge, parce que lui, ce qu'il demandait hier, là, c'est de retrouver sa liberté pendant les procédures. Il y a des éléments qui ont été présentés qu'on ne connaît pas parce qu'il y a une ordonnance de non-publication, mais le juge a décidé de le garder en dedans jusqu'à la fin de toutes les procédures. Donc, l'homme de 67 ans, donc, qui est accusé de conduite dangereuse causant des lésions, vous comprendrez. Puis, on nous rappelle dans l'article du journal qu'au lendemain de sa peine, pas de sa peine, mais de sa, quand, le lendemain de l'événement, quand il a comparu, il avait de la misère à se tenir debout en disant qu'il n'avait pas pu avoir sa morphine. Fait que je ne sais pas si ça fait partie de certains éléments qui ont été présentés. On a eu une couple d'accidents de ce genre-là dans les dernières semaines. C'est franchement inquiétant.
Dans ce cas-là, précisément, c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû être à l'air libre.
Ah, mais il y a tellement
criminels.
De feuilles de route longues avec des histoires de stupéfiants.
C'est des criminels de profession, c'est des incorrigibles. T'sais, sans devenir... Je sais qu'il y a une catégorie pour les criminels dangereux, mais criminels quérulents, mettons. Là.
Récidiviste constant. Là, ouais.
Dès que tu ressors, tu recommences. À un moment donné, on devrait mettre une ligne et dire, bon, ben toi, habitue-toi à prison, ça va être ça pour toi pour la suite des choses. Il y a du monde qui meurt.
Parce que lui, il sévit depuis les années 80. Il y a eu des peines longues qui se sont accumulées au fil des années. Production de drogue, complot, importation de stupéfiants, trafic de drogue. Rien qui implique nécessairement le volant. Sauf que dans ma tête, mettons qu'on sort de ce cas-là, là, quand tu accumules les mauvaises décisions en frais de criminalité... J'ose penser que dans le reste de ta vie, tu accumules probablement des mauvaises décisions aussi.
Ben c'est parce que c'est des petits crimes, mais c'est des petits crimes constants parce que t'as pas le jello entre les deux oreilles pour concevoir autre chose que des petits crimes. T'es dans une problématique de consommation que t'es pas capable de régler. On attend juste la tragédie, puis c'est exactement ce qui est arrivé dans ce cas-là, alors que le CV craquait déjà puis débordait déjà de partout. Là.
Il y a un autre gars aussi qui a comparu, lui, aujourd'hui, Daniel Miville, 53 ans. C'est en lien avec des événements qui se sont déroulés à Lévis en juin 2025, puis c'est une femme qui est décédée à ce moment-là. Et lui, C'est vraisemblablement l'homme qui était au volant. Le véhicule qui avait fait des tonneaux, ça a été long avant d'être en mesure de l'arrêter et de l'accuser. Donc, aujourd'hui, accusé d'avoir causé la mort de Jenny Demers en juin, Demers en juin 2025, en lien avec cette collision-là, lui avait réussi à s'en sortir, à aller chercher de l'aide. Puis là, on a finalement été en mesure de déposer ces accusations-là aujourd'hui. Fait que pas des belles histoires. Québec qui déposait aujourd'hui son projet de loi pour interdire la vente aux mineurs de boissons énergisantes. La famille du jeune Zachary Miron, qui sont venus parler devant les médias alors que la majorité des partis étaient là pour les épauler parce qu'on espère que ce soit un projet de loi transpartisan, donc que personne ne se fasse du capital politique avec une décision du genre. Le jeune garçon de 15 ans qui est décédé en 2024 après une interaction entre un Red Bull et la médication qu'il prenait pour son TDAH. Il y a le Parti conservateur qui, aujourd'hui, a encore dit... Nous, on veut juste pouvoir poser des questions. Là, on ne veut pas nécessairement ralentir. On pense qu'on a le temps, mais on croit qu'il faudrait vraiment poser des questions avant de prendre une décision comme celle-là.
J'ai jamais compris l'entêtement d'Éric Duhaime dans ce genre de dossier-là.
On dirait qu'il choisit vraiment mal ces dossiers, pour vrai.
Et mauvaise stratégie. Je sais qu'il était sur nos ondes par téléphone ce matin. Ouais. Mais il a envoyé Maïté Blanchette-Vézina seule au BAT dans les 24 dernières heures. Puis elle a bien de la misère à s'expliquer puis à se défendre. Et on lui a posé la question cet après-midi. Duhaime, il est où? Ah, il est retenu à Montréal.
Il y avait des choses à Montréal.
Tout paraît mal. Tout paraît mal. Lâchez le morceau.
Lâchez les pamplemousses.
C'était pas le bonos, oui. Laissez les pamplemousses tranquilles, puis suivez le reste. Puis c'est pas pour... C'est parce que t'as pas à inventer de débat quand il y a pas de débat. On peut aller plus vite des fois, là.
Puis, tu sais, Audrey, elle nous faisait remarquer que chaque fois qu'on parle de cette histoire-là puis des pamplemousses de Maïté Vézina avec l'interaction avec les médicaments, tout le monde dit, il y avait ça comme histoire d'indéfendable. C'est-tu là qu'elle a pris ça? J'aurais aimé ça qu'un journaliste sur la colline, il pose la question.
Mais le pire, c'est que c'est sûr que oui. Dans le sens que des fois, le cerveau est mal fait, hein, tu colles à quelque chose, puis c'est sûr que c'est une niaiserie de même.
Je peux te dire une chose, c'est que la position actuelle du Parti conservateur, elle est indéfendable. Et c'était beau, ça, hein?
Tout vraiment beau.
Pas pire, hein?
Drop the mic.
Ouais.
On peut s'en aller.
C'était le commentaire du vendredi.
La Ville de Québec qui s'est vue attribuer la désignation région de biosphère de l'UNESCO. C'est la première ville en Amérique du Nord qui reçoit ce titre-là. Ça a été annoncé un petit peu plus tôt aujourd'hui. On dit que Québec est un modèle unique en Amérique du Nord et rare à l'échelle mondiale. Bon. Quand on parle de nombre de population, 60 000 résidents avec des secteurs qui sont fortement urbanisés parce que oui, on a du vrai downtown, si on veut, mais qu'en plus de ça, il y a le fleuve, les cours d'eau, la couronne forestière, puis... Tu sais, l'autre jour, on disait pourquoi on aime Québec. Parce qu'on est tellement habitué de critiquer notre ville, certains choix, des projets qui avancent pas, qui sont trop lents. Puis ça revenait tellement, ça, de dire qu'à Québec, tu as une proximité avec tout le côté nature, si tu le désires, et même en restant en ville. Puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt rare.
Je trouve ça vraiment cool que quand les juges et les évaluateurs sont venus à Québec, on a réussi à cacher le Bourgneuf au grand complet. Good job! Maintenant qu'on a l'autocollant puis le macaron, on peut-tu avancer, là, faire le tramway, le troisième lien, faire le pont de l'île d'Orléans puis recommencer à travailler? Là?
Attention, il y a le parc de l'Escarpement puis il y a quand même une portion du parc linéaire de la rivière Saint-Charles qui passe dans le Bourgneuf. Le maire Marchand, lui, s'envole lundi pour 12 jours en Europe, des missions auxquelles il n'avait pas pu assister pour des raisons de santé, mais il pourra faire celle du côté de la Belgique avec l'Association internationale des maires francophones qu'on aimerait rapatrier à Québec en 2029 pour les 50 ans de l'événement. On estime que les retombées pourraient être de 1 million de dollars. Et par la suite, bien plat, tu sais, Belgique, les frites, la bière, tout le kit, puis s'en va après ça en Italie.
C'est
des gros sacrifices de mission.
Ah, mon Dieu, là, pas facile. Un apéro spritz en soirée après ta journée. Quelle marde!
Ben, j'imagine comme si on t'a pas le droit.
Non, sûrement pas.
Tu dois
non,
pas,
c'est
hein?
Du sans alcool. Pas le droit au bon
Pellegrino,
repas. Non, c'est ça, c'est poche.
Est-ce que c'est du travail? Oui. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir aussi?
Oui.
C'est pour participer à la conférence de VéloCity où on voudrait justement attirer l'événement du côté de Québec en 2029. Tu sais, quand il y a eu l'antivirus, là, on s'est parlé de « Oh mon Dieu, que ça doit pas être le fun d'être pogné sur une croisière qui a pas le droit de se rendre nulle part parce qu'il y a un virus. » Il y a pire. Être pogné dans une station spatiale et qu'on te dise « Là, tu vas aller dans le petit vaisseau Dragon, là, au cas où, parce qu'il y a des fuites à réparer. Puis on veut être sûr que vous soyez en sécurité.
Hey, pas de stress.
Grossièrement, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour les astronautes de la Station spatiale internationale un petit peu plus tôt aujourd'hui. On dit que c'était un excès de prudence de vouloir faire ça, parce que, bon, on n'a pas le choix, là. Tu sais, t'es dans une station spatiale. Si ça tourne mal, on a vu des films qui finissaient pire que ça pour bien peu. Fait que pendant environ 2 heures, on a indiqué après ça que les réparations avaient été mises sur pause parce qu'il fallait qu'il y ait davantage de mesures et de données qui soient analysées. Semble-t-il que des fuites, il y en a couramment, que c'est pas un grand risque, c'est plutôt la pression de l'appareil qui chute graduellement. Fait que moi, c'est toutes des affaires que je trouverais pas rassurantes en étant loin de chez nous.
Je trouverais pas non plus. Là.
En même temps, tu sais, dans ce contexte-là, que ce sera pas un contexte rassurant pour le temps que tu vas être là.
Non, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de risque, je sais pas, moi. Être animateur de radio dans un studio.
On est relativement bien, nous autres. Hein,
s'il y a une fuite, ben, c'est Audrey qui a mangé du fromage.
Ouais, quand Audrey a des fuites, normalement, elle sait où aller. Là.
C'est jamais arrivé. Je t'ai juste à le préciser. Je pense que ce serait la fin de Gravel en retour. Fait que je fais attention.
On a 17 degrés présentement à Québec. Hey, la NSPW va présenter son gros gala de l'année dans quelques jours à peine. Le Golden Opportunity 16 de la NSPW va se dérouler au pavillon Guy Lafleur. C'est samedi prochain, dans le fond, à 20h, de la belle visite. Mustapha Ali de retour à Québec. Cédric Alexander également, deux anciennes stars de la WWE. Michel Plante qui affronte Matt Falco en finale. Combat d'échelle. Claude Malone dans une cage pour pas qu'il brasse de marbre. Ça va être le Dawa. On est un fier partenaire de la NSPW. On a 4 billets à vous offrir. On va poser une petite question par rapport à la lutte et par rapport à des gens que vous connaissez bien, si vous êtes des auditeurs aguerris de Boulevard 102.1. Il y a des amateurs de lutte qui sont des mégastars internationales. Il y en a une en particulier qui voulait tellement faire un match de lutte une fois dans sa vie, qui s'est mis à s'entraîner pour vrai et perdre du poids. Beaucoup de poids. Tellement que quand il est venu au Centre Vidéotron à Québec, on avait de la misère à le reconnaître. Et il avait tout fait ces efforts-là pour faire un match de lutte en tant que star invité. D'ailleurs, ce gars-là revient cet été dans le cadre du FEC.
C'est donné, là.
C'est donné. On pourrait peut-être même jouer un extrait de sa chanson. Là. Yeah, you try to keep me down, try to put me underground, but I'm only going high. Donc, qui est cet amateur de lutte? Qui est devenu lutteur et acteur à la WWE, entre autres dans la période du dernier WrestleMania. Même Audrey le sait. 418-971-1021, 418-971-1021. Parmi tous ceux qui auront la bonne réponse, on vous donne 4 billets pour assister au gala Golden Opportunity, le plus gros gala de l'année au Québec, présenté ici même au pavillon Guy Lafleur samedi prochain. Bonne chance! Gravel.